France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Aujourd'hui, nous avons la joie de nous entretenir une heure avec une grande primatologue qui étudie les gorilles de l'Ouest en Centrafrique. Shelly Massy est notre invitée. Depuis l'âge de 8 ans, Shelly Massy nourrit une passion profonde pour ces grands primates. Depuis l'an 2000, elle étudie le comportement des gorilles de l'Ouest avec des recherches de terrain au plus près de la forêt. Mais cette espèce discrète est particulièrement difficile à observer dans son milieu naturel. Les gorilles, nos plus proches cousins, avec qui nous partageons 98% de notre génome, sont en danger critique d'extinction. Nous risquons donc de perdre ces précieux témoins qui nous renseignent sur le propre de notre espèce. Alors on tente de se glisser dans la peau d'un gorille. Shelly Massy, la Queen Kong. Et Shelly Massy, qui n'est pas encore parmi nous, qui a eu un petit souci de transport, mais qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Shelly Massy, qui est donc primatologue, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle, qui est spécialiste des gorilles de l'Ouest, et qui vient de publier Queen Kong aux éditions Albin Michel. On vous retrouve dans quelques instants. Et bien, d'abord, merci aussi à nos auditeurs de nous écouter à toute heure en podcast sur le fil de podcast de la Pléiade France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous de nombreuses ressources sur notre compte @science CQFD. Et alors, comment devient-on primatologue? Quelles sont les recherches de Shelly Massy? Pourquoi les gorilles de l'Ouest sont-ils menacés? Nous serons ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais une fois n'est pas coutume, on commence avec la chronique Avec Science d'Alexandra Delbo, qui toute la semaine s'interroge sur l'expérimentation animale dans la recherche scientifique. Aujourd'hui, les méthodes in vitro.
Toute la semaine, on s'intéresse à l'expérimentation animale et ses alternatives avec aujourd'hui les modèles in vitro. Ils se sont développés au XXe siècle à partir du moment où l'on a réussi à mettre des cellules en culture. Cela signifie leur mettre de quoi manger dans des conditions de température idéales, donc 37 degrés dans les cellules humaines, avec le bon pH ainsi que les protéger des micro-organismes. Les scientifiques ont d'abord commencé par mettre en culture des morceaux de tissu entier pour ensuite isoler chaque type cellulaire. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les cellules cessent de se diviser, comme c'est le cas naturellement dans l'organisme. La grande révolution en culture cellulaire est venue avec les premières lignées cellulaires immortelles, notamment grâce à une femme nommée Henrietta Lacks. Franceline Marano est professeure émérite de biologie cellulaire et de toxicologie à l'Université Paris Diderot et coordinatrice de l'ouvrage « Quelles alternatives en expérimentation animale » paru aux éditions Coué.
La lignée Ella, là, qui était la première lignée immortelle humaine venant d'un cancer du col de l'utérus d'une Américaine qui, en fait, est restée célèbre sans le savoir parce qu'elle est morte très rapidement après ce prélèvement qui a été établi par un chercheur, Georges G, sans la prévenir, sans son consentement. La particularité de ces cellules, c'est qu'elles sont capables de se diviser éternellement. Donc, c'est une lignée immortelle. Elle a joué un rôle très important, cette lignée-là, parce qu'on a ensuite utilisé la lignée pour toutes sortes d'expériences, par exemple pour étudier les mécanismes de la division cellulaire. Et puis, on l'a utilisée aussi en toxicologie, quand on s'est dit il faudrait avoir des alternatives à l'expérimentation animale. Et pour tester des médicaments, par exemple, au début de leur développement, eh bien, on a pu utiliser la lignée Ella pour voir si telle ou telle molécule était toxique, c'est-à-dire provoquer la mort des cellules. Donc cette lignée a été et encore utilisée.
Les cellules d'Henrietta Lacks se trouvent dans tous les laboratoires du monde. Ses descendants n'ont d'ailleurs été informés de la diffusion massive de ce prélèvement que dans les années 70 et sans aucune compensation financière, malgré la petite dizaine de milliers de brevets utilisant ces cellules Ella. Sa famille est d'ailleurs encore aujourd'hui engagée dans une bataille judiciaire. Après les cellules immortelles, c'est au tour des cellules immortalisées de voir le jour dans les années 90. C'est le même principe, elles ne sont pas cancéreuses, heureuse, mais on ajoute des gènes pour lever le blocage du cycle cellulaire manuellement. Le problème cette fois, c'est qu'au fil des divisions, les cellules perdent leurs caractéristiques. Les cellules de peau ne ressemblent plus à des cellules de peau, les neurones ne ressemblent plus à des neurones, toutes perdent leur différenciation. C'est pour cela qu'autant en recherche fondamentale qu'appliquée, il faut redoubler d'efforts pour rendre les modèles in vitro de plus en plus sophistiqués. C'est le cas par exemple pour étudier la toxicité des particules diesel ou des polluants atmosphériques.
Pour pouvoir bien comprendre comment ces polluants agissent sur cet épithélium bronchique, il faut qu'ils conservent toutes ces caractéristiques en culture. Et ça, à partir de lignées cellulaires, c'est quasi impossible. Pour mimer ce qui se passe dans les bronches, hein, les cultures sont faites sur une membrane. Sous la membrane, vous avez le milieu de culture qui mime ce qui provient de notre milieu intérieur. Hein. Et puis, à un certain moment, eh bien, on les met à l'interface dite air liquide, c'est-à-dire en relation avec l'atmosphère. Et là, elles se différencient en épithélium mucociliaire comme l'épithélium bronchique. Et c'est là qu'on va réaliser les expériences. Les cellules se comportent en fait comme si elles étaient, si vous voulez, in vivo. Hein. L'intérêt de modèles comme celui que je viens d'évoquer, hein, c'est que ça permet d'avoir une approche beaucoup plus fine que si c'est sur un animal.
Ces modèles in vitro permettent d'étudier avec précision ce qu'il se passe à l'échelle moléculaire et donc, dans certains cas, d'éviter le recours aux modèles animaux. On parle ici surtout de recherche fondamentale, mais cela pourrait à terme concerner aussi la recherche clinique. Aux États-Unis, une nouvelle loi permet depuis 2 ans à l'Agence du médicament d'autoriser des essais chez les humains sans obligation d'expérimentation animale au préalable. Mais attention, in vitro ne veut pas dire sans animaux. Pour faire pousser les cellules, on utilise un milieu nutritif très riche, appelé sérum de veau fœtal, autrement dit une fraction de sang prélevé lors de l'abattage de vaches gestantes. Et c'est là tout le paradoxe, même les techniques présentées comme une alternative à l'expérimentation animale reposent encore en partie sur elles. Cela tend à présent à changer, à cause de ce problème éthique majeur, mais aussi à cause de la variabilité de ces échantillons. Des solutions émergent avec des milieux 100% synthétiques ou dérivés de plasma humain. Reste donc à les généraliser.
Merci Alexandra pour votre chronique et bonjour Shelly Massy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, d'être arrivée même essoufflée. On va parler évidemment tout au long de cette heure de votre parcours, des méthodes de la primatologie, de l'importance de cette science. Mais d'abord, Shelly Massy, c'était quand la dernière fois que vous avez vu un gorille?
Ça fait un peu longtemps parce que j'étais enceinte et j'ai une petite fille de 1 an. J'avais dit que j'ai réallé en forêt après 1 an, mais pour l'instant, je ne me sens pas de la laisser. Donc, ça a été en 2023.
2023, et c'était qui?
C'était surtout les femelles du groupe Mata qui étaient restées toutes seules. Et donc, j'étais totalement fascinée par ces femelles qui marchaient toute la journée toutes seules, sans protection du mâle. Elles se débrouillaient très, très bien. Et ça m'a marqué beaucoup.
Une sorte de femelle rebelle, parce qu'il me semble que les structures de gorilles sont pas du tout, sont plutôt des groupes d'une dizaine d'individus autour d'un mâle dominant. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on se représente.
Oui, et l'idée classique qu'on avait de gorilles, c'était que le dos argenté était le chef. C'est lui qui prend toutes les décisions et c'est les femelles vont suivre les décisions du mâle. Et finalement, au cours de mes recherches de ces 25 ans que j'ai passé à les étudier, je me suis aperçue plus en plus que les femelles avaient un rôle important dans les groupes et qu'elles ne suivaient pas bêtement le dos argenté comme tout le monde pense, mais elles prenaient des décisions collectives aussi pour les groupes et les groupes pouvaient suivre les femelles même sans l'accord du dos argenté qui restait peut-être derrière à dormir tranquillement.
Alors, à quoi ça ressemble justement de vivre une expérience comme celle-ci, de suivre une femelle solitaire comme ça en pleine forêt?
Déjà, je dirais plutôt suivre les gorilles, c'est quelque chose d'incroyable. C'était effectivement le rêve, comme on dit en italien, le rêve dans les tiroirs de ma vie. Ça veut dire le rêve que j'ai pensé que j'aurais jamais pu réaliser. Et j'avais ce rêve depuis j'avais 8 ans, parce que j'avais vu un documentaire avec deux gorilles qui regardaient un caméléon. Et après, un de deux a caressé le caméléon tout au long de son profil. Et là, je suis tombée amoureuse avec ces animaux qui me semblaient très très sensibles, je voulais les étudier. Donc déjà, pour moi, c'était un rêve vraiment qu'au fur et à mesure du temps, j'ai pensé que c'était vraiment une vocation parce que je ne voulais pas quitter l'Italie, ma famille, mon copain de l'époque, mon cheval. Finalement, j'ai tout quitté pour aller les voir et être une journée avec les gorilles. On se sent privilégié de les regarder dans les yeux, c'est magique.
Vous parlez des yeux des gorilles, c'est quelque chose d'assez connu, la proximité que le regard d'un gorille est assez proche d'un regard humain. Que sont ces animaux, en fait, ces grands primates?
Oui, effectivement, comme vous le dites, les yeux sont très similaires à nous. Et c'est pas seulement ceux d'un gorille, mais c'est les yeux de tous les grands singes. Ceux qu'on appelle grands singes sont les gorilles, les chimpanzés, les bonobos, les orang-outans. Et nous, les primatologues, on dit que nous-mêmes, les humains, sont des grands singes. Parce qu'on appartient tous à la même famille, la famille des hominidés. Et donc, nos yeux sont vraiment similaires. Et quand on regarde un gorille, un chimpanzé, un orang-outan, je trouve qu'on revoit vraiment les traces de notre histoire humaine dedans.
Du côté des gorilles, on distingue deux espèces de gorilles. Il y a les gorilles de l'Est et les gorilles de l'Ouest que vous étudiez. Quelle est la différence entre ces deux espèces?
Oui, alors c'est une grande différence parce que les gorilles de l'Est incluent la population des gorilles des montagnes qui a été étudiée depuis maintenant plus de 40 ans parce que c'était Diane Fossey, la pionnière, la chercheuse américaine, qui avait commencé les études sur les gorilles des montagnes au Rwanda. Et donc, les a rendus connus à l'international. Donc, tout le monde connaît les gorilles de montagne. Et quand j'ai commencé à étudier les gorilles de l'Ouest, qui sont l'autre espèce, beaucoup moins connue, on ne les connaissait quasiment pas parce que c'était difficile de les approcher, de les observer. Et donc, on pensait que ce qu'on avait appris sur les gorilles de montagne pouvait être la même chose pour les gorilles de l'Ouest. Et au fur et à mesure de mes recherches sur les gorilles, je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. Parce que les gorilles de montagne vivent sous les montagnes où il n'y a pas les fruits, par exemple. Donc, ils ont un régime alimentaire plutôt herbivore. Les gorilles de l'Ouest vivent dans les forêts des plaines, où il y a des fruits saisonnaires. Et donc, selon la saison, ils mangent des fruits. Et tout ça, vous vous direz, bon, ça ne change pas beaucoup. Mais ça change beaucoup parce que toutes les relations sociales entre les individus peuvent changer à cause du fait qu'il y a les fruits qui sont disponibles. Pourquoi? Parce qu'imaginez, parfois, il y a des fruits grands comme des ballons de basket, les doigts argentés qui est dominant sur la nourriture. Donc, il arrive, il prend un ballon de basket pour le manger, il reste 2 heures à le manger et les autres n'ont rien mangé parce qu'un arbre ne peut pas produire 10 ballons de basket. Il produit qu'un ou un et demi. Et donc les autres doivent trouver d'alternatives et tout ça, ça déclenche des rangs, des hiérarchies entre les femelles. Donc la femelle dominante peut-être manger le demi qui reste et les autres femelles, les moins dominantes, doivent aller chercher d'autres choses à manger. Ceci ne se trouve pas chez les gorilles des montagnes parce qu'ils mangent des plantes herbacées qui sont disponibles partout dans l'environnement.
Oui, il y a une hiérarchie alimentaire chez les gorilles de l'Ouest.
Oui.
Mais alors c'est étonnant quand même, on a des gorilles de l'Ouest qui sont frugivores selon les saisons. On parle d'animaux qui font quand même quoi, 2 mètres sur 2 mètres,
vous posez sur cubique. Oui, c'est vrai que une autre différence entre les gorilles des montagnes, c'est que les gorilles des montagnes, le dos argenté est 200 kg. Le gorille de l'Ouest, c'est 180 kg. C'est un tout petit peu plus petit et aussi 1,80 m à la place de 2 mètres de dos argenté de gorille des montagnes. Et typiquement, pour les gorilles, les femelles sont la moitié de la taille du dos argenté. Et donc oui, c'est difficile. Effectivement, l'autre chose qui les caractérise, c'est qu'avant, tous les primatologues pensaient que les gorilles ne montaient pas sous les arbres. Et finalement, les gorilles de l'Ouest, je les vois même à 60 mètres de terre sous les grands arbres de la forêt pour manger des jeunes feuilles ou des fruits. C'est simplement que chez l'habitat de gorilles de montagne, en montagne, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Donc ils ne sont pas arboricoles juste parce qu'ils n'ont pas l'occasion. Et aussi, pour chercher les fruits, les gorilles de l'Ouest peuvent marcher pour 10 km par jour. Les gorilles des montagnes, ils marchent 250 mètres parce que les plantes herbacées sont tous à côté.
On a donc ces géants végétariens. L'idée reçue, l'image que l'on a dans le grand public, c'est King Kong, évidemment. C'est cet animal terrifiant, sauvage, violent. Est-ce que c'est le cas?
Alors, c'est pas exactement King Kong, il faut penser King Kong, c'est pas vraiment un gorille, c'est un gorille de la préhistoire. Et effectivement, on a souvent l'image que le gorille est agressif. Je sais que là, maintenant, c'est viral, une vidéo avec de 100 hommes contre un gorille qui va gagner. Effectivement, le gorille va pas se battre contre 100 hommes parce qu'il est quand même intelligent, il va échapper. Mais le gorille n'est pas agressif pour percer, il est agressif parce que le doigt argenté a le rôle de protéger sa famille. Et chez le gorille, il y a l'infanticide. Donc souvent, les groupes familiales qui sont constitués par un doigt argenté, chez le gorille de l'Ouest, par un seul doigt argenté et plusieurs femelles avec leurs petits, sont suivis par d'autres doigts argentés qui sont à solitaire ou d'autres groupes et qui peuvent attaquer les groupes. Donc il y a des combats souvent. Parfois, il y a des combats entre deux doigts argentés. Et si le doigt argenté du groupe n'est pas assez fort, l'autre doigt argenté peut tuer un petit enfant de son groupe. Et donc, pourquoi les gorilles, effectivement, réagissent à tout ce qui peut être en danger pour leur famille. Donc, si un homme essaie d'approcher une famille qui est de gorilles, qui est sauvage, il va nous attaquer. Mais pas parce qu'il est méchant. Il va nous attaquer pour protéger, pour de bonnes raisons, pour protéger sa famille.
Mais à quoi ça ressemble justement une charge, une attaque de gorille? Vous avez déjà vécu ça et quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ah oui, donc nous, on, effectivement, pour observer les gorilles, on les habitue à notre présence.
L'habituation, c'est cette méthode des primatologues.
Oui, exactement, pour pouvoir les observer. Et là, il y a une grande différence entre les gorilles des montagnes encore et les gorilles de l'Ouest, parce que des plaines de l'Ouest. Parce que les gorilles des montagnes, on a la pente et on peut les approcher de loin, de façon qu'ils ne sont pas très effrayés. Et donc, ils nous tolèrent à une distance qui peut être même 100 mètres, on peut le voir, ils nous tolèrent. Par contre, chez les gorilles de l'Ouest, la forêt des plaines, parfois, elle a une visibilité de même demi-mètre. Donc, on est obligé de se faire voir pour les habituer à notre présence. Et parfois, on les brusque et il peut être très agressif. Donc, chez les gorilles de l'Ouest, on prend 8 ans pour les habituer, pour qu'ils ne nous chargent plus quand ils nous voient. Pour les gorilles des montagnes, on prend que 2 ans. Et qu'est-ce que sont les charges? Ça veut dire que le doigt argenté vient avec la bouche ouverte, les canines ils font 10 cm, en hurlant vers nous. Et il ne faut absolument pas bouger. Parce que si on bouge, il le voit comme une soumission de notre part ou un essai de l'attaquer. Et donc, il va nous mordre. Donc, 98% du temps, si on ne bouge pas, il ne fait que des charges, mais il va s'arrêter à quelques centimètres de nous sans nous mordre ou nous attraper.
C'est ça, c'est que le but de l'habituation, c'est de montrer au gorille que l'humain n'est pas une menace pour lui.
Oui, il faut montrer que nous, on est là pour faire d'autres choses, pas pour eux. Il faut avoir une attitude neutre. Donc, ça veut dire pas vers eux, pas agressif, pas de soumission. Mais il faut être, par exemple, manger des feuilles, faire comme si on est un autre animal dans l'environnement. Et finalement, il arrive à nous accepter comme un autre animal dans l'environnement.
Alors cette méthode d'habituation, ça a été mise au point par la célèbre primatologue américaine que vous citez, Diane Fossé, qui est reconnue pour son travail pionnier de terrain auprès des gorilles des montagnes dans les années 1960 et 1970. Voici une archive de 1982.
Le groupe 5, c'était un groupe particulier, comme le groupe 4 d'ailleurs. Il existait deux groupes sur lesquels Diane Fossé avait particulièrement travaillé. Il y avait, aux alentours du campement, on rayonnait sur un territoire qui comprenait environ 7 ou 8 groupes de gorilles. Et deux de ces groupes, le 4 et le 5, étaient effectivement déjà très habitués au contact. Diane Fossé avait, dès son arrivée, fait un travail extraordinaire, il faut bien le dire, d'abord parce que personne ne l'avait jamais fait. Le premier à avoir fait un travail d'étude et d'observation sur les gorilles, c'était Scheller, qui avait commencé en 59. Et à cette époque, personne n'avait encore approché, sinon avec un fusil, avec la trouille, un gorille dans la nature. On disait à l'époque qu'approcher un gorille sans un fusil dans un rayon de 20 mètres, c'était de la folie. C'était la morsure. Et la morsure, pas la morsure de gorille, la mort certaine. Et en définitive, bien sûr, c'était toute une mystification du gorille, qui a été complètement détruite en partie au début par George Scheller, qui les a très bien approchés, qui a fait une très belle étude, et d'ailleurs il a fait même l'essentiel, on peut dire, et qui a été repris par la suite par Diane Fossé. Et elle a eu quand même, elle a forcé ce contact, et elle a réussi à établir un contact très proche, c'est-à-dire à venir à quelques mètres d'un groupe de gorilles, et à finir le groupe par s'habituer à la présence d'un observateur. Ce qui fait que ces deux groupes, 4 et 5, on pouvait approcher à une dizaine de mètres, les observer parfaitement, sans qu'ils manifestent de crainte, d'agressivité, et ils continuaient d'avoir un comportement tout à fait normal. Alors c'était extraordinaire pour l'observation, parce que généralement, quand on fait de l'observation de la nature, le problème qui se pose, c'est que les animaux sont perturbés par la présence d'observateurs et n'ont pas un comportement normal. Là, l'extraordinaire était que la présence de l'observateur ne gênait pas du tout. Leurs rapports sociaux n'étaient pas affectés du tout par notre présence. Et c'était l'essentiel.
Voilà les nus magnétiques sur France Culture et André Lucas à propos de Diane Fossé en 1982, donc 3 ans avant son assassinat, par rapport justement à cette prise de contact avec les primates chez les Messies. On voit des images comme ça de Diane Fossé qui imite même le langage corporel des gorilles, qui mange des feuilles. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on est amené à faire aujourd'hui en tant que primatologue ou ce sont des pratiques qui ont complètement évolué?
Alors, une partie encore on les fait et une partie non. Donc, pour commencer, Diane Fossé les approchait et lui donnait à manger pour pouvoir être accepté. Et là, aujourd'hui, on ne le fait plus parce qu'on sait qu'on peut transmettre des maladies de l'homme vers le gorille si on fait ça. Et donc, et en plus, moi étant scientifique et étant spécialiste du régime alimentaire des gorilles, je vous dis, on va impacter beaucoup leur régime alimentaire et leur physiologie, donc on ne le fait plus. De donner à manger et ni de on a aussi souvent les photos de elles qui les prend dans les bras.
Ouais, pour National Geographic qui ont oui. beaucoup œuvré aussi sur la cause des gorilles pour leur protection.
Oui, c'est ça. Même si c'est agréable, c'est peut-être aussi un rêve pour moi, mais on est obligé de maintenir une distance de 7-10 mètres pour éviter cette transmission des maladies. Donc ça, on ne le fait plus. Par contre, pendant l'habituation, on peut effectivement, quand aux premières rencontres, imiter leur comportement de manger des feuilles juste pour montrer que nous, on est là pour manger, pour faire d'autres choses que les regarder. Ou, on n'est pas là pour eux, pour faire comprendre qu'on est là pour d'autres raisons. Et l'autre chose, la grande révolution de Diane Fossé a été aussi, c'était les années 60, de donner des noms aux individus. Avant, on ne le donnait pas. On ne donnait pas des noms aux individus. Et là, cette démarche a été bien reprise et est vivante aujourd'hui encore, jusqu'au point qu'aujourd'hui, on étudie aussi les personnalités de chaque individu dans le monde animal, pas seulement chez les primates. Parce qu'avant, si on parlait des personnalités, on disait « Ah non, vous êtes trop anthropomorphe ». Mais aujourd'hui, un des grands axes de recherche des primatologues et aussi des zoologues en général, c'est d'étudier la personnalité des différents individus.
Alors, quelles sont justement les personnalités qui ont marqué votre parcours de primatologue et comment devient-on primatologue ? Restez avec nous.
Il y a des gorilles juste devant nous. Oh là là, on en voit un de dos. Il est à quelques mètres.
France Culture, la science CQFD. Natacha Trio.
En fait, il y en a 4.
Celui-ci, c'est un don noir. Il aime jouer avec les personnes. Bien, il y en a. Il lâche plein, oui. Ici.
Ah, là, il vient de se taper la poitrine.
Ok, qui a une montre?
Il est en train de manger une liane ou. Il fait le pitre, en fait.
Vous êtes en direct sur France Culture. Nous ne sommes pas en train d'explorer les forêts des gorilles de montagne. Nous sommes avec Shelly Messi, qui, elle, étudie les gorilles de l'Ouest. On vient de voir que ce sont nos proches cousins, si proches que nous, humains, nous pouvons leur transmettre des maladies. On estime même qu'en République centrafricaine, le virus Ebola est responsable de la disparition d'un tiers des gorilles qui y vivaient. On a parlé des méthodes de la primatologie. Parlons maintenant de votre parcours, Shelly Messi. Vous nous avez raconté ce souvenir d'enfance, de ce documentaire, de ce gorille qui caresse du doigt la queue d'un caméléon. Est-ce que vous savez quand, enfant, cette vocation est née ? Est-ce qu'il y avait déjà un goût pour les sciences durant votre enfance ?
Je suis née avec la passion pour les animaux, c'est sûr. J'ai adoré tous les animaux et effectivement, peut-être, j'étais un peu influencée aussi par mon père qui était scientifique. Est scientifique, bon, il est à la retraite, mais il enseignait géochimie, donc il est géologue. Et pour son travail, il est allé enseigner à l'université d'Addis Abeba. Donc, on a vécu là-bas 2 ans et demi. Et après, l'été nous a emmené au Kenya à faire les safaris. Et moi, j'avais 5 ans et demi peut-être. Et je connaissais toutes les espèces des mammifères. Mais par contre, si vous me demandez quelle espèce de primates il y avait, à l'époque, j'avais pas un intérêt pour les primates parce qu'ils me semblaient trop similaires à l'homme. Je voyais souvent les documentaires sous les chimpanzés qui faisaient la guerre. Donc, je voyais les côtés négatifs, méchants de l'homme. Et finalement, comme vous le dites dans ce documentaire, j'ai vu le côté positif, émotionnel qui nous rapproche au grand singe. Mais c'est sûr que cette vocation scientifique est probablement venue aussi dans ma famille.
Vous parliez de l'équitation aussi durant l'enfance. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu influencer votre rapport au contact des gorilles?
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est surtout ma mère qui m'a fait réfléchir à ça parce que depuis j'avais 5 ans en Afrique, que justement j'avais commencé à monter à cheval, que j'ai repris dès qu'on est rentré en Italie. J'avais mon cheval plus tard et je faisais des compétitions. Mais c'est sûr que maîtriser un animal si grand comme un cheval, depuis j'avais 5 ans, depuis j'étais toute petite, avoir sa responsabilité aussi, m'a fait peut-être, m'a rendu capable de ne pas avoir peur des charges de gorilles et de pouvoir maîtriser effectivement des gorilles qui sont agressives pendant l'habituation.
Alors vous êtes orientée vers des études de biologie à la faculté Sapienza à Rome. Depuis cette époque, vous effectuez de nombreux allers-retours entre la Centrafrique et l'Europe. Vous commencez des études sur le terrain et vous le faites aux côtés de la chercheuse Chloé Cipolletta. Elle cherche à faire de l'habituation sur les gorilles de la plaine de l'Ouest, mais à ce moment-là, on connaît quand même très peu de choses sur cette espèce.
Oui, et effectivement, vu que, comme on a dit avant, c'est difficile de les habituer, donc on ne pouvait pas les observer parce qu'il y a pas à l'époque, quand je suis partie, de groupes qui étaient habitués. Il y avait un groupe en semi-habituation que Chloé avait commencé à habituer et pourtant, donc, on n'avait pas des observations directes de leur comportement parce qu'effectivement, on n'arrivait pas à les approcher parce que c'était beaucoup plus difficile que les gorilles de montagne. Et donc, j'ai eu l'occasion, j'ai entendu parler d'elle à l'université à Rome, qu'elle travaillait pour le WWF de la RCA pour habituer les gorilles pour faire de l'écotourisme, qui est un outil très important aujourd'hui pour pouvoir gagner de l'argent. Pour pouvoir protéger les gorilles. Parce que les touristes peuvent payer, même au Rwanda, 1000 euros pour rester avec le gorille une heure et tout l'argent qui est la revenue du tourisme est utilisé pour la protection des gorilles.
Donc, c'est d'ailleurs l'écotourisme qui a sauvé les gorilles de montagne que protégeait Diane Fossé. Et c'est justement cette méthode-là qui a... Enfin, il était vraiment sur le point de disparaître.
Oui, il était vraiment quelques centaines d'individus. Aujourd'hui, les gorilles des montagnes, c'est la seule population des grands singes qui est en train d'augmenter grâce aux efforts internationaux de protection des gorilles et l'écotourisme. Si vous pensez qu'en Ouganda, l'écotourisme était la deuxième revenue du pays, vous voyez que quand même, ça donne beaucoup d'argent. Bien évidemment, en République centrafricaine, c'est un peu plus compliqué de le mettre en place parce que la logistique du pays est un peu plus difficile. Il est en guerre civile aussi depuis 2013. Mais les efforts du WWF RCA sont incroyables pour dans les côtés du parc national de Zangazanga où je travaille depuis 2000 et c'est grâce à eux qu'on a pu protéger les gorilles et les faire connaître les gorilles de l'Ouest et les faire connaître à l'international.
Dans ce parc national, vous vous souvenez évidemment de votre première rencontre avec un dos argenté?
Ah oui, les premières rencontres n'étaient pas du tout tranquilles. Et finalement, effectivement, Chloé avait peur que je parte parce que c'était très, très... le groupe n'était pas très habitué, donc on le cherchait dans un environnement qui était très, très serré, la végétation secondaire qui était très serrée, et on cherchait les traces. On n'avait pas les traces ce jour-là, et finalement, derrière la végétation, juste en face de nous, à 2 mètres maximum, le doigt argenté est sauté en dehors de la végétation vers nous et il a crié, il nous a chargé et il a attrapé la jambe du pistère Aka qui était juste en face de nous et donc c'était très effrayant et il a crié, nous on n'a pas bougé, on n'a pas regardé. Et c'était très... Normalement, pendant l'habituation, on peut avoir des grosses charges, mais quand il y a un contact physique, c'est très dangereux. Parce que normalement, ça veut dire qu'il n'avait pas assez peur de rester... de ne pas nous toucher. Et donc, c'était un moment un peu compliqué. Quand on est rentré au campement, on a raconté ça à Chloé. C'était ma première sortie en forêt avec le gorille. Elle a dit, est-ce que tu as peur? Tu ne veux pas rester? Parce que la volontaire précédente, elle est partie parce qu'elle n'a pas supporté la situation du campement et du travail en forêt. Et moi, j'ai dit non, au contraire. Moi, je suis super contente que j'ai pu voir les doigts argentés. C'était mon rêve de le voir. Je ne me rendais pas compte de la situation, le danger de la situation. Mais moi, j'étais super contente parce que j'avais aucun espoir de le voir parce qu'il n'était pas habitué.
Quels sont les risques quand on est primatologue de travailler comme ça en forêt?
Ah, plusieurs risques. Effectivement, quand je donne des conférences, je suis au cours avec mes étudiants, je raconte tous les mauvais côtés parce que sinon tout le monde veut venir étudier les gorilles et ce n'est pas pour tout le monde. On est isolé dans un endroit, bon, aujourd'hui on a l'Internet, mais à l'époque on n'avait même pas l'Internet. Mais donc le risque psychologique d'isolation, mais c'est surtout des risques physiques comme morsure d'un gorille qui quand même il va pas nous tuer comme contrairement comme il disait avant, il va pas nous tuer mais on aura des blessures énormes qu'on veut pas être et l'hôpital le plus proche. C'est à la capitale, à 2 jours de 4x4, donc c'est pas idéal. On a beaucoup de parasites et maladies tropicales. Je suis rentrée plusieurs fois en Europe, surtout ici, et même à l'Institut Pasteur, il n'arrivait pas à trouver qu'est-ce que j'avais comme maladie, et le médecin tropical de l'Institut Fournier, il n'arrivait pas à trouver. Donc, j'étais malade pour un an. Et donc, beaucoup, c'est des maladies infectieuses. Et aussi, le danger, il y a tous les serpents mortels que vous pouvez imaginer, cobra, mamba, mamba noir, mamba vert, vipère du Gabon. Mais c'est surtout, le premier danger, c'est malheureusement les éléphants des forêts. Parce que les éléphants des forêts, oui, tout le monde pense qu'ils sont tranquilles, mais... les éléphants, moi je fais toujours l'exemple de Disney, de Dumbo, où il y a les éléphants qui sont tous effrayés par une petite souris. Ils ont peur facilement. Et de plus, si vous pensez que malheureusement il y a du braconnage, et il y a eu une hausse du braconnage à cause de la guerre civile, les éléphants ont encore plus peur de l'homme. Donc s'ils nous chargent et là, il faut faire contrairement avec les gorilles, il faut échapper le plus vite possible dans la direction opposée des éléphants. Et donc, si on n'arrive pas à échapper, il nous attrape, il va nous tuer.
Avec tous les dangers que vous décrivez, peut-être qu'on peut rappeler pourquoi, finalement, l'étude des comportements de nos cousins, pourquoi c'est quelque chose d'important?
Oui, parce qu'il y a deux enjeux. Un jeu... le premier, c'est leur conservation, parce qu'on a dit que toutes les espèces des grands singes sont en disparition. Même les gorilles des montagnes qui sont en train d'augmenter sont menacées de disparition. Et donc, quand on les étude, on les comprend mieux, on comprend mieux leurs besoins d'habitat et de tout. Et donc, on peut mieux les protéger. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vu que sont nos cousins vivants les plus proches, on appartient à la même famille, en étudiant eux, on peut mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant l'évolution humaine. Parce qu'on peut penser que des ancêtres communs avec les grands singes ou même nos ancêtres précédents avaient des conditions environnementales similaires aux grands singes. Et même si on peut comprendre beaucoup à partir des fossiles, il y a certains comportements, certaines cognitions, capacités cognitives qu'on ne peut pas comprendre à partir des fossiles, mais on peut comprendre à partir des contraintes de l'environnement qui font pression sur les grands singes parce qu'ils sont similaires à nous.
Mais quelles sont vos études récentes sur les gorilles? Restez avec nous, on continue d'avancer dans les pas de ces géants. de la chasse, un chant Haka enregistré en 1978 en direct sur France Culture, car nous avons la joie de nous entretenir tout au long de cette heure avec Shelly Massy, primatologue, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle. Là, on entend les polyphonies du peuple Haka. Vous avez tout de suite reconnu, d'ailleurs, cette mélodie. On peut peut-être rappeler l'importance de vos recherches et comment, justement, ce peuple de la forêt est important aussi pour travailler au mieux au cœur de la forêt.
Oui, ils sont cruciaux. J'ai dit, ils sont les acteurs masqués de mes recherches parce que sans eux, on ne pourrait jamais retrouver la même famille de gorilles tous les jours pour pouvoir l'habituer et aussi pour pouvoir la suivre. Parce que ce sont seulement eux qui sont capables de lire vraiment les petites traces que les gorilles de l'Ouest laissent dans la forêt pour le retrouver. Et c'est ça, effectivement, un des autres problèmes de l'habituation. Pourquoi est difficile? C'est aussi parce que dans les forêts de montagne, on a dit les gorilles de montagne, s'habitue facilement après 2 ans. Mais c'est aussi parce que la forêt des montagnes, il y a la végétation herbacée. Donc, quand ils passent en gorille, c'est comme une autoroute qui est ouverte. Donc, même vous pouvez aller suivre un gorille. Dans la forêt de plaine, la forêt, il y a un grand canopée et il y a moins de sous-bois, on peut dire. Parfois, oui, mais le gorille marche dans la végétation sans laisser vraiment beaucoup de traces. Il laisse parfois des traces seulement quand il mange des choses. Et les Hakas sont le seul capable de voir ces traces vraiment dans la forêt très dense. Parfois, il y a une petite feuille qui est pliée. Et là, avec l'expérience, j'arrive maintenant à comprendre qu'il y a un gorille ou un animal qui est passé par là. Mais eux, ils peuvent dire, selon comme la feuille est pliée, si c'est un gorille ou un chimpanzé. Or qu'une femelle gorille et un chimpanzé sont vraiment similaires en taille et morphologie. Donc, ils sont vraiment extraordinaires. Comme j'ai dit dans le livre, ils ont des sens bioniques, ils ont une vision bionique, ils voient mieux que nous, ils entendent mieux que nous. Ils sont vraiment incroyables. Et de plus, ce qui est incroyable, regardez comme ils marchent dans la forêt sans faire de bruit pour n'être pas détectés justement pendant la chasse et donc aussi pendant l'épistage des gorilles par les animaux. Et c'est vraiment comme une danseuse qui passe dans une forêt pleine de lianes intriquées et danse. C'est vraiment, ils sont incroyables.
Et c'est grâce, en effet, avec les Hakas, ce peuple de la forêt, que vous avez réussi à étudier de près cette espèce difficile à observer, comme on le dit. Vous avez montré, on l'a évoqué en première partie de l'émission, vous avez montré que les gorilles consomment beaucoup de fruits lorsqu'ils sont disponibles, mais ils se tournent vers des plantes herbacées en dehors de ces périodes. Mais vous avez aussi montré, avec des collègues américains, vous avez pu mesurer la teneur en alcool des fruits consommés par les gorilles.
Si. Les journalistes aiment beaucoup ça. J'ai pas trop parlé dans les livres, mais tout le monde le remarque.
Ah, l'origine de l'alcoolisme chez Homo sapiens, forcément, ça parle à tout le monde.
Ça intéresse beaucoup l'Homo sapiens. Oui, c'est parce qu'effectivement, ce chercheur américain m'avait contacté parce qu'il a trouvé dans la génétique humaine et des grands singes, donc gorille, chimpanzé, orang-outan, et bonobo, qu'il y a un petit bout de gènes qui disent qu'on était exposé pendant notre évolution à l'alcool. Et c'est que les grands singes et l'homme qui l'ont. Donc il s'est posé la question, est-ce qu'il mange des fruits fermentés? Et j'ai dit oui, bien évidemment. Parfois, il mange des fruits qui sont vraiment l'alcool. Donc on a mené une étude avec lui et on a trouvé effectivement que les gorilles peuvent ingérer beaucoup d'éthanol, donc d'alcool, à partir des fruits qu'ils mangent. Même ceux qui ne sont pas vraiment alcool, que l'odeur n'est pas vraiment fermentée, ils ont plein d'alcool. Et donc, effectivement, on est en train d'étudier les effets que cet alcool peut avoir sur leur physiologie et voir si un impact. Et donc, ce qu'on pense, c'est que l'alcoolisme, mais je ne vais pas le dire trop, ça peut être quelque chose. On a des racines évolutives chez nos ancêtres de l'alcoolisme grâce au fait que sûrement nos ancêtres, comme les grands singes, consommaient des fruits fermentés.
Vous avez étudié donc ces comportements, disons, alimentaires, vous étudiez les comportements sociaux, puis vous êtes aussi particulièrement attaché à l'étude des femelles gorilles. Je vous propose d'ailleurs un extrait, une lecture de votre ouvrage, de votre essai Queen Kong. Quid du sort des femelles ? Elles quittent leur groupe natal vers l'âge de 7 ans, donc, pour rejoindre un mâle solitaire ou un autre groupe. Cette union est parfois temporaire, et elles peuvent aussi changer de groupe après des années, si elles ne se sentent pas suffisamment protégées par le dos argenté, comme nous l'avons évoqué, ou si elles ne parviennent pas à se reproduire avec lui. Bref, les femelles ont le choix. Elles décident beaucoup plus de choses qu'on ne l'imaginait avant ces études. Je me souviens avec émotion du jour où Mio, la fille aînée de Maloui et Makumba, a délaissé le groupe. Son père était nerveux et multipliait les démonstrations de force. Il sentait la présence d'un dos argenté à proximité. De fait, un beau et jeune spécimen a soudain surgi dans l'épais feuillage de la forêt et s'est dirigé vers Mio. Devant la tempête de charges et de démonstrations de force de Makumba, il était difficile d'observer ce que faisait Mio et si elle était intéressée par l'opportunité de partir. Mais je dirais que oui. Je l'ai vu s'éloigner, le nouveau dos argenté lui tenant la main dans la végétation épaisse. Et je ne l'ai plus jamais revu après ce jour-là. Makumba avait observé la scène de loin, sans intervenir. Il en aurait été autrement si on lui avait volé l'une de ses épouses adultes. Et d'une certaine manière, il savait qu'il devait en être ainsi et laisser faire les jeunes. Les femelles ont le choix chez Nimassi. C'est pas une société si machiste que ça, finalement.
Oui, c'est ça, effectivement. C'est tout le but de ce livre, c'est d'un peu bouleverser la vision que le gorille, c'est cette société machiste où il y a le dos argenté double, qui fait la double à la taille de la femelle, qui décide de tout. Il est le décideur, il est le protecteur, c'est vrai, mais c'est pas vrai qu'il décide de tout. Parce qu'effectivement, on voit que les femelles peuvent changer les groupes aussi. Elles se sentent pas protégées assez par le dos argenté. Et d'ailleurs, cet extrait, ça me fait rire parce que c'est la chose que presque tous les jours mon conjoint m'a répété après qu'il a lu les livres. C'est la chose qu'il a, le fait qu'elle allait main dans la main avec le dos argenté l'a vraiment frappé. Et je m'attendais pas que c'était si frappant que ça parce que pour moi c'était normal. Mais c'est vrai que les femelles peuvent décider d'échanger si, par exemple, son petit tombe de l'arbre et il est mort. Elle quitte le groupe systématiquement, même si ce n'est pas la faute du doigt argenté, mais elles ont comme une sensation qu'elles ne sont pas assez protégées par le doigt argenté. Je pense que c'est un peu lié aussi à l'infanticide, mais c'est vrai qu'elles peuvent faire beaucoup plus de ce qu'on pensait avant. Avant, on pensait que les doigts argentés étaient costauds. C'était eux qui décidaient, qui faisaient des parades, des displays. Mais c'est finalement elles qui décident. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a montré que plus le doigt argenté, le grand mâle, a une grande crête, et plus il est considéré sexy pour les femelles, parce qu'il a plus de femelles dans son groupe.
Je ne ferai pas de parallèle avec notre espèce. Dans cette lecture, vous évoquez Maloui. Maloui, c'est une femelle à laquelle vous étiez particulièrement attachée. D'ailleurs, il me semble que c'est elle qui est sur la couverture de cet essai. Et c'est le seul singe pour qui vous avez justement brisé la règle de ne pas interagir avec les gorilles.
Oui, c'est vrai. Parce que, effectivement, une fois qu'ils sont habitués, et même pendant l'habituation, on reste neutre. On doit être un élément neutral de l'environnement. Donc, on n'interagisse pas, on ne parle pas avec eux. Bien que, quand les femelles me chargeaient trop, je lui parlais un peu en italien pour les calmer, parce que l'italien semble un peu chanter, tout le monde dit ça. Donc, j'essayais, effectivement, ça marchait. Mais quand ils sont tranquilles, effectivement, on n'interagisse pas avec eux. Mais elle a les yeux trop intelligents, elle a vraiment les yeux trop brillants. Et un jour que j'étais en train de prélever son urine avec une pipette en plastique à terre, juste après qu'elle avait fait pipi. Elle m'a regardée parce que je le mettais dans une bandelette urinaire pour tester la présence de différentes choses dans son urine. Et donc, elle était très intéressée par ce que je faisais. Et avec ses yeux trop intelligents, je me suis sentie un peu obligée de lui expliquer ce que j'étais en train de faire. Donc, en italien, je lui ai expliqué ce que j'étais en train de faire. Elle était là, bien, à me regardant et m'écoutant jusqu'à tout le temps que je lui ai expliqué.
Vous avez montré récemment chez Limassi que les femelles, justement, toujours sur ces idées reçues que vous arrivez à casser sur l'image qu'on se fait des gorilles, vous montrez également que les femelles votent pour prendre des décisions.
Oui.
C'est quoi un vote de femelle gorille?
Oui, et effectivement, c'est elle qui m'a amenée un peu vers ce type d'études, parce que je voyais qu'elle, avec son intelligence, après quelques années, elle est devenue la femelle dominante. Et je voyais qu'elle était souvent à la tête du groupe. Or que c'était pas le doigt argenté comme on pensait qui conduisait les groupes. Et donc on a mené une étude avec ma doctorante et mon collaborateur suisse pour voir effectivement si ces femelles décidaient et votaient pour se déplacer. Ce qu'on a vu, c'est que après le repos, tout le monde peut s'exprimer pour décider s'ils sont prêts pour partir. Et ça peut être le doigt argenté, mais ça peut être également une femelle dominante comme Maloui qui décide, qui commence à faire des vocalisations comme similaires à ceux qu'on a entendus avant chez les gorilles des montagnes.
Ils font très gutturaux.
Comme ça. Donc tout le monde, si les autres sont prêts à partir, les autres femelles, par exemple, peuvent répondre à Maloui et faire... Et quand tout le monde s'est exprimé, pas tout le monde, quand un nombre suffisant d'individus s'est exprimé, et ce qu'on appelle en science le quorum, donc une espèce de vote, alors le groupe va partir. Avec ou sans le doigt argenté. S'il ne s'est pas exprimé, mais tous les autres se sont exprimés, ou il y a un nombre suffisant d'individus qui sont prêts à partir, tout le monde part. Et l'autre chose intéressante, c'est que les femelles dominantes et le doigt argenté, mais aussi, c'est surtout les femelles qui parfois ils le font, une fois qu'elles sont parties, elles continuent à faire ces vocalisations, mais un peu plus longues. Elles font, à la place de faire... Elles font... Et ça donne la direction de leur marche. Et c'est surtout les individus les plus dominants, donc les femelles dominantes et le doigt argenté qui font ça, qui décident où aller et la direction. Et ils continuent à les faire à la tête du groupe. Donc souvent c'est Maloui ou les autres femelles dominante des autres groupes.
Mais c'est intéressant parce que vous suivez également des travaux sur la communication, vous faites des analyses fines des sons et des interactions au sein des groupes. Alors comment on interprète les vocalisations des gorilles ?
Alors, c'est très intéressant parce que avant, on pensait les vocalisations ont été étudiées, la communication beaucoup chez le grand singe le plus proche à l'homme, qui c'est le chimpanzé. Que je peux vous assurer qu'il est très bruyant. Quand je suis allée voir dans la forêt, on doit presque se taper, se couvrir les oreilles parce qu'il crie tout le temps. Et donc, le gorille était connu pour ne pas vocaliser beaucoup. Mais vous l'avez entendu, il me faisait rire le passage sur les gorilles des montagnes que vous avez montré, parce que les gorilles n'arrêtaient pas de faire. Et effectivement, c'est pas qu'ils vocalisent pas, ils vocalisent avec voix basse, parce que le groupe des gorilles sont cohésives. À la différence des groupes de communautés des chimpanzés qui sont, on l'appelle en fusion-fusion. Il y a plusieurs individus qui se sont éloignés, donc ils ont besoin de communiquer à distance. Les groupes de gorilles restent toujours ensemble pour éviter les attaques des autres doigts argentés et pour éviter les risques d'infanticide, donc avoir la protection du doigt argenté. Et donc ils utilisent les vocalisations très bas pour coordonner le groupe. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu qu'il y a une sorte de coopération dans la communication, dans la coordination du groupe. C'est pas la décision d'un individu, mais c'est la coopération des différents individus. Et pourquoi ça c'est intéressant? Parce que on pense que la coopération a été la clé du développement, de l'évolution du langage humain, qui est beaucoup plus varié et beaucoup plus complexe de la communication des grands singes. Mais ça peut nous donner des idées de comment on a évolué en langage complexe, quelle était la nécessité. La nécessité, c'était de coordonner et coopérer ensemble.
Vous avez aussi débusqué des vocalisations, justement, d'une femelle, d'une maman gorille qui appelle ses petits pour leur dire presque « viens manger ici
». Oui, c'est vrai. C'est la première étude que j'ai fait sur les vocalisations. Effectivement, j'étais intéressée par cette vocalisation qui est liée à la nourriture. Ça veut dire Et c'était toujours moi, lui, qui m'inspirait ça, parce qu'elle était dominante. Elle marchait à la tête du groupe. Elle a trouvé, imaginez, elle trouvait un beau arbre avec beaucoup de fruits. Elle commençait à faire cette vocalisation, même avant de manger le fruit. Donc, c'était pas un stimulus donné bêtement par le fruit qui était dans la bouche. Elle faisait comme une vocalisation des plaisirs de la nourriture. Elle fait vraiment similaire à nous. Mais elle le fait vraiment à une fréquence très élevée qui voyage loin. Et les autres individus l'entendaient et donc arrivaient. Mais après, elle s'est fâchée avec les femelles qui arrivaient. Donc, je ne comprenais pas pourquoi elle appelait les autres. Mais elle s'est fâchée avec les femelles. Donc, j'ai mené cette étude pour voir qu'est-ce que ça passait. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que elles, en réalité, ce que les femelles font, elles appellent leurs petits et le dos argenté. Une fois que tous ces petits sont arrivés et le dos argenté est arrivé, elles arrêtent de faire cette vocalisation. Ce qui montre qu'effectivement, c'était exprès fait pour ça. Et donc, ça, c'est une autre démonstration comme les femelles sont clés, pas seulement dans la communication, mais aussi dans la trajectoire du groupe, parce qu'elles sont capables de dévier la marche de tout le groupe, de les amener dans des arbres qui sont riches en fruits. Plus il y a des fruits, et plus elles font ce type de vocalisation. Donc, il semble vraiment qu'elles disent « Venez ici, il y a beaucoup de choses à manger ».
Alors, les gorilles de l'Ouest sont classés comme en danger critique d'extinction, selon la liste rouge de l'UICN. Pourquoi sont-ils menacés et comment ? Restez à l'écoute.
France Culture. La science CQFD. Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous avons la joie de nous entretenir une heure avec la primatologue Shelly Massy. On vient de parler de vos récentes études sur la communication animale. Un autre aspect aussi qui vous intéresse, c'est la culture chez les animaux, c'est-à-dire l'existence de comportements appris, transmis socialement, au rôle clé que jouent les femelles dans cette transmission. Je vous ai demandé, avant de rejoindre ce studio, de nous apporter également des sons de vos enregistrements privés. Alors, on va attendre que ce jingle s'estompe et on va justement écouter ce son qui provient des forêts qu'habitent les gorilles de l'Ouest.
Ça, c'est typique. C'est les femelles qui se fâchent entre eux. Elles commencent à faire des barques, aboiements fort. Et après, elle commence à crier si la situation ne se calme pas. Justement parce qu'il y a ce type de hiérarchie que je vous ai dit entre les femelles. Et c'est une hiérarchie qui est claire entre la première et la plus haute en rang et la dernière. Mais au milieu, effectivement, elle peut continuer à se fâcher pour la nourriture. Donc, typiquement, si Malou arrive à l'arbre, comme on a dit, et appelle les autres, une autre femelle arrive, elle peut effectivement faire ce type de vocalisation pour chasser l'autre femelle qui est arrivée. Parce qu'elle n'était pas contente.
La reproduction aussi chez les femelles, c'est quelque chose qui vous a également intéressé. Vous vous êtes rendu compte, en effet, que dans un groupe, parfois, les bambins du groupe ne sont pas forcément du dos argenté dominant.
Oui, ça c'est quelque chose qu'on est en train d'investiguer, examiner encore plus en détail. Mais on était étonnés, effectivement, j'ai mené cette étude avec mes collègues de l'UMR, où je suis à Paris, sous la génétique des gorilles. Et on a vu qu'il y avait sur 5 groupes, 2 fils, les plus âgés en plus, n'étaient pas les fils du dos argenté. Or que chez les gorilles de l'Ouest, on a toujours pensé que tous les enfants qui sont dans les groupes sont les fils du seul dos argenté qu'il y a dans les groupes. Et donc là, on était vraiment très étonnés et on est en train de mener encore plus d'études pour essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'une des raisons, ça peut être que le groupe a été simplement partagé parce que le dos argenté, il est mort et d'une façon ou l'autre, le petit est réussi à grandir. Ou, effectivement, ça peut être aussi d'autres raisons que des accouplements furtifs, je pense que vous dites en français, qu'on a très très rarement vu et qui peut être peut-être la cause, donc à creuser dans le futur.
Un mystère à creuser. Quelles sont les autres grandes questions, les autres mystères que vous souhaiteriez creuser prochainement?
Alors, sûrement on est en train de continuer à étudier la communication parce qu'il y a beaucoup de choses encore à étudier. Par exemple, ce que j'ai décrit dans les livres, mais il faut vraiment analyser les données, c'est que quand les femelles sont éloignées, qu'il semble que les doigts argentés fait cette vocalisation liée à la nourriture pour les tromper, pour faire de la tromperie, pour dire il y a quelque chose de bon à manger, seulement parce qu'elles se sont éloignées et ils voudraient qu'elle revienne. Et finalement, ça donne après, si elle ne revient pas, comme souvent ça peut passer, les doigts argentés commencent à faire une combinaison incroyable de différentes vocalisations que normalement ils ne combinent pas ensemble. Donc ça semble une sorte de langage particulier jusqu'à qu'il se fâche, mais ça peut aller pour une heure, jusqu'à qu'il se fâche parce qu'elle ne revient pas et il se frappe la poitrine, tout le monde va revenir. Ou sinon, un autre sujet qui m'intéresse beaucoup et que je suis en train d'examiner un peu plus en détail, c'est la culture. Mmh. Je ne parle pas de ça dans les livres parce que ce n'est pas encore publié et abouti, mais je pense que les gorilles ont une espèce de culture exactement comme les humains peuvent avoir et comme les autres grands singes, les chimpanzés, les orang-outans ont. Mais aujourd'hui, on ne sait pas si les gorilles ont une culture.
On ne sait pas si, parce que j'allais vous demander, est-ce qu'on peut faire un distinguo entre une culture des chimpanzés? On a reçu à ce micro Sabrina Krief qui nous parlait justement de soins et de gestes d'automédication qui ont l'air de passer comme ça dans des groupes très précis dont on peut parler de culture animale. Chez le gorille, on n'a pas de découvertes qui vont dans un sens ou dans un autre.
C'est un peu plus compliqué parce que souvent, chez les chimpanzés, la culture a été décrite à partir de l'utilisation des outils. Et les gorilles, par exemple, ou l'automédication, mais les gorilles ne font pas l'automédication et n'utilisent pas les outils dans les milieux naturels. Si vous mettez un gorille dans un zoo et vous lui donnez les mêmes outils que les chimpanzés utilisent dans les milieux naturels, il est parfaitement capable de l'utiliser. C'est juste qu'il n'a pas besoin parce qu'il est beaucoup plus costaud que les chimpanzés, donc ils utilisent la force davantage. Et donc ça n'a pas guidé les chercheurs aussi, surtout ceux qui étudient les gorilles de montagne, parce que ce sont ceux qui sont les plus étudiés, à vraiment décrire la culture. Mais ce que j'ai pu observer, vu que je me suis intéressée beaucoup au régime alimentaire, une fois que j'ai pu observer plusieurs autres groupes, je me suis rendu compte que les gorilles qui vivaient dans le même endroit avaient un régime alimentaire différent. Donc, comme moi, je suis italienne, je mange le pâte tout le soir, et ici en France, vous ne le faites pas, même si les étudiants parfois le font pour des raisons économiques, mais c'est une différence culturelle, effectivement, liée au choix alimentaire.
Culture gastronomique chez les gorilles. On arrive à la fin de cette discussion, mais avant de lancer notre générique de fin, on vient de dire que faire de la recherche est aussi aider pour la protection des gorilles. Peut-être qu'on peut rappeler qu'est-ce qui pèse, qu'est-ce qui menace les gorilles de l'Ouest ?
Il y a plusieurs choses. Vous avez dit Ebola, vous avez nommé Ebola, c'est une des maladies épidémiques qui effectivement a tué 90% de la population des gorilles en République du Congo, et c'est la raison pour laquelle cette espèce, même si c'est très nombreux, a beaucoup d'individus, 360 000 individus, a été quand même classée très menacée. Mais c'est surtout la disparition de l'habitat, parce qu'on coupe la forêt pour cultiver, pour faire des palmiers pour l'huile des palmes que tout le monde connaît, mais aussi à cause du coltan pour creuser, pour faire des mines, pour récupérer le coltan qui est nécessaire pour nos ordinateurs portables et téléphones portables. Et aussi les braconnages. Si on coupe la forêt, les braconnages augmentent parce que les endroits reculés de la forêt sont accessibles.
Merci, Chili Massi. Merci, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. À la réalisation, c'était Noé Mignard. À la technique aujourd'hui, Ludovic Auger. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.
Merci beaucoup.
Merci.